Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La Gironde et les Bouches-du-Rhône limitent les rassemblements contre le rebond de la Covid-19. Le nombre de nouveaux cas augmente sensiblement dans ces deux départements. On fait le point avec Wafia Kenich dans un instant. Faut-il imposer de nouvelles restrictions pour freiner l'expansion de l'épidémie? Non, répond notre invité Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes. Christophe Prudhomme réclame plutôt des moyens supplémentaires pour l'hôpital public. À l'étranger, certains pays ont aussi choisi de limiter les libertés publiques pour des raisons sanitaires. Reportage en Angleterre dans cette édition. Emmanuel Macron dénonce une tentative d'assassinat contre l'opposant russe Alexeï Navalny. C'est la première fois que le président français évoque ouvertement l'affaire Navalny, ce que n'apprécie pas du tout la Russie de Vladimir Poutine. Pour enrayer le rebond de l'épidémie, le gouvernement avait exclu la semaine dernière d'imposer de nouvelles restrictions au plan national. En revanche, le Premier ministre Jean Castex avait demandé aux départements les plus touchés de prendre les mesures nécessaires. Chose faite aujourd'hui en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône, où les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter. Les préfets ont annoncé plusieurs dispositions qui limitent singulièrement les rassemblements. Les explications de Wafia Kenich.
Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur les plages et dans les parcs de Bordeaux. Les soirées dansantes dans les bars, restaurants ou salles des fêtes sont désormais prohibées. On passe de 5000 à 1000 personnes pour les rassemblements dans les lieux publics. Les événements comme les brocantes ou les fêtes foraines ne sont plus autorisés. Du côté des entreprises, retour à la case télétravail dès que cela est possible. Les sorties scolaires sont elles supprimées. Le mot reconfinement n'a jamais été prononcé. L'État préfère parler d'un plan d'action territorialisé, une stratégie pour casser la circulation du virus. Tous les signaux sont au rouge au CHU de Bordeaux. C'est son directeur Yann Bubien qui le dit. 100 patients hospitalisés pour Covid, 24 en réanimation, 57 clusters identifiés, dont 15 en EHPAD. Des chiffres qui augmente de jour en jour. Stopper l'épidémie, cela passe aussi par la prévention. Il faut, annonce la préfecture, renforcer l'offre de tests. Sauf que les lieux de tests sont saturés, ainsi que les laboratoires d'analyse. Alors il va falloir faire des choix. Malades, cas suspects, cas à risque et personnel de santé seront donc prioritaires. La préfète a également annoncé l'ouverture de nouveaux lieux de dépistage la semaine prochaine. Enfin, en EHPAD, les autorités préconisent l'isolement de tous les résidents malades et la limitation des visites à 2 par semaine et par résident. En fin d'après-midi, c'était au tour de Christophe Mirmand, le préfet des Bouches-du-Rhône, d'annoncer plusieurs mesures pour enrayer l'épidémie. Port du masque obligatoire de 6h à 2h dans 27 communes du département, annulation des manifestations de grande ampleur comme la foire de Marseille, pas plus de 1000 personnes dans les salles de spectacle, sur les plages et dans les parcs, le stationnement statique de plus de 10 personnes est désormais interdit. On ne parle toujours pas de reconfinement, en tout cas, pas pour le moment.
Wafia Kenich, merci. Le préfet de Guadeloupe doit lui aussi annoncer des mesures complémentaires dans les prochaines heures. La France a enregistré ces dernières 24 heures plus de 6000 nouveaux cas de Covid-19. Un chiffre en baisse par rapport à ce week-end. Il y avait eu plus de 10000 nouvelles contaminations dénombrées samedi et plus de 7000 hier. Mais les chiffres du lundi reflètent les tests effectués le dimanche où la plupart des laboratoires sont fermés. En tout cas, les pouvoirs publics ont fait le choix de limiter au cas par cas les rassemblements pour contenir l'épidémie. Cette stratégie est-elle la bonne? On en parle avec l'invité de ce journal, Christophe Prudhomme, porte-parole de l'AMUF, l'Association des médecins urgentistes de France. Bonsoir.
Bonsoir.
Christophe Prudhomme, est-ce que vous comprenez ces mesures restrictives prises par les préfectures de Gironde et des Bouches-du-Rhône?
Non, pas vraiment. C'est-à-dire que la répression, les interdictions, nous avons vu que leur efficacité était limitée. Par ailleurs, elles provoquaient des réactions qui étaient contre-productives. Si vous empêchez les gens de se rassembler dans des lieux publics où les contrôles peuvent être effectués, eh bien, ils se rassembleront de manière clandestine. Voilà, donc il faut comprendre. Ce d'autant que toutes ces mesures qui sont médiatisées sont là aussi pour cacher les priorités qui aujourd'hui sont... Quelle organisation pour les tests? Or, voilà, on voit que depuis le 11 mai, nous n'arrivons pas, enfin le gouvernement avec les ARS n'arrive pas à organiser et avoir une politique de test efficace. Donc il y a un problème. Aujourd'hui, il faut sûrement développer les tests rapides salivaires, même s'ils sont un petit peu moins performants que les tests que l'on fait dans le fond du nez, parce que avoir les résultats 7 ou 8 jours après avoir voulu se faire tester, c'est jeter de l'argent par les fenêtres.
Pourtant, oui. Christophe Prudhomme, il faut tout de même tenir compte de la dégradation de la situation sanitaire en France.
Mais quelle dégradation de la situation sanitaire? Il faut qu'on se comprenne. Oui, nous avons un nombre de personnes qui sont détectées positives plus important. Nous avons une légère augmentation du nombre d'hospitalisations. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous sommes revenus à une situation hospitalière qui est la même qu'avant la crise, alors que la crise a montré qu'on manquait de lits de réanimation. D'ailleurs, là, j'ai entendu, le directeur du CHU explique qu'en urgence, il va falloir qu'il réaugmente le nombre de lits en réanimation. Pourquoi a-t-on fermé les lits de réanimation que nous avons ouverts, alors que nous savions que, en reprenant l'activité normale dans les hôpitaux, nous n'étions pas en capacité d'accueillir les quelques patients qui nécessitent des lits d'hospitalisation et qui sont atteints par la maladie Covid-19. Ce sont aujourd'hui le nombre de patients en réanimation relativement limité. Gouverner, c'est prévoir. Ce que nous sommes un certain nombre à demander, c'est d'augmenter, là, dans tous les départements, dans toute la France, le nombre de lits de réanimation de manière significative, c'est-à-dire au minimum 50%, de passer de 5 500 à 8 000 lits de réanimation tout de suite, d'accepter d'avoir des lits libres disponible, vide pendant un certain temps, pour ne pas être obligé en pleine situation où les malades sont là, arrivent, et d'être obligé d'ouvrir des lits en catastrophe. Vous voyez, je le répète, gouverner, c'est prévoir. Si on veut passer un hiver dans de bonnes conditions, sachant qu'on aura des malades atteints du coronavirus, que nous aurons des malades atteints de la grippe, nous aurons tous les malades classiques de l'activité normale de l'hôpital qu'on a laissé à l'abandon pendant la période du pic de l'épidémie. Donc il faut redimensionner l'hôpital, mais de manière pérenne et non pas à chaque fois avec une conférence de presse où vous avez le directeur du CHU, M. Yann Bubien, qui vient là en urgence.
On va de quel CHU vous parlez, Monsieur Prudhomme? De quel CHU vous parlez?
Du CHU de Bordeaux, puisque c'est Bordeaux qui a annoncé en particulier, en premier, les mesures. Donc, il y a une difficulté aujourd'hui, c'est-à-dire que pour pouvoir lutter contre ce virus, qui va être là pendant des mois, peut-être plusieurs années, il faut arrêter de travailler dans l'urgence par conférence de presse. Nous savons ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Pouvoir tester rapidement et isoler les personnes qui ont été testées positives. Deuxièmement, il faut que l'hôpital soit en capacité d'accueillir un flux de malades qui n'est pas énorme. Écoutez, aujourd'hui, regardez les chiffres d'hospitalisation et du nombre de malades en réanimation. Nous sommes à des chiffres qui sont relativement faibles, même s'ils ont augmenté légèrement ces dernières semaines.
Mais ce n'est pas ce que dit le gouvernement. Le gouvernement dit tout de même qu'il y a une situation qui est de plus en plus tendue dans les hôpitaux.
Mais pourquoi la situation est tendue? Parce que les hôpitaux sont à l'os et que nous sommes revenus à une situation des hôpitaux pire qu'avant la crise du coronavirus. Nous avons aujourd'hui moins de lits, nous avons du personnel épuisé, il n'y a pas eu de recrutement, il n'y a pas eu d'ouverture de lits supplémentaires, alors que la spécificité de la crise en France, à la différence d'autres pays qui ont eu un nombre de malades similaires, c'est pourquoi l'hôpital a été en crise. Parce que l'hôpital manquait de moyens, manquait de lits. 5 500 lits de réanimation en France aujourd'hui, alors que l'Allemagne en a rapporté à sa population 3 fois plus. Donc en Allemagne, quand les malades arrivent, il n'y a pas de problème. Les lits sont disponibles. En France, dès qu'on a quelques dizaines de malades supplémentaires, nous sommes en situation de catastrophe parce que on n'a pas prévu d'augmenter le nombre de lits. Qu'a-t-on fait depuis le mois de mai? Depuis le mois de mai, le nombre de malades a diminué. Sauf qu'on savait qu'avec le déconfinement, à un moment donné, il allait remonter.
Christophe Prudhomme, médecin urgentiste à l'hôpital Avicenne à Bobigny, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. À l'étranger, la deuxième vague de la Covid-19 est une réalité dans de nombreux pays. En Israël, le gouvernement Netanyahou ordonne un reconfinement généralisé de 3 semaines à partir de vendredi, qui coïncide avec le nouvel an juif cette année. En Europe, le nombre de nouveaux cas explose en Autriche et en République tchèque. Québec. Les contaminations augmentent également au Royaume-Uni, où l'Angleterre interdit depuis ce matin les rassemblements de plus de 6 personnes. Mesure difficile à appliquer, comme a pu le constater notre correspondant Richard Place.
Comment surveiller derrière les murs d'un appartement ou d'une maison? Comment identifier clairement un groupe de plus de 6 dans la rue? Comment expliquer à des enfants qu'ils peuvent être 15 dans une classe à l'école, mais pas dehors pour jouer au foot? À toutes ces questions, les autorités n'ont pas de réponse claire. Elles concèdent qu'elles vont avant tout faire de la sensibilisation et elles appellent les bons citoyens à dénoncer les mauvais. Loïs aurait voulu des mesures plus ciblées.
Pourquoi tout le pays? S'il y a une propagation localement, réglons le problème localement. Imposons un confinement, pourchassons ceux qui l'enfreignent. Je serais parfaitement d'accord. Mais le pays doit travailler et faire de l'argent.
David profite du soleil londonien tout seul dans un parc. Il le jure, tant que la règle des 6 sera en vigueur, il la respectera.
Il n'y avait pas de solution idéale. Je pense qu'ils font du mieux qu'ils peuvent à partir des informations dont ils disposent. J'obéis à toutes ces règles parce que je ne voudrais pas être coupable d'infecter qui que ce soit et en particulier ma famille.
Un jeune homme a été sanctionné ce week-end. La règle interdisait alors les rassemblements à plus de 30 et ils étaient 50 à faire la fête chez lui. 11 000 euros d'amende. Un exemple frappant plutôt que des contrôles généralisés.
Richard Place, notre correspondant à Londres. Valérie Giscard d'Estaing a été hospitalisée ce soir à l'hôpital parisien Georges Pompidou. L'ancien président souffrirait de problèmes respiratoires qui auraient nécessité son admission en réanimation. Mais cette admission en réanimation, c'est une information du journal Le Parisien qui n'a pas été confirmée par la famille de VGE. Valérie Giscard d'Estaing est aujourd'hui âgée de 94 ans. Alexei Navalny va mieux. Pour la première fois depuis son hospitalisation à Berlin, l'opposant russe a pu se lever de son lit. Les médecins allemands sont raisonnablement optimistes. Ils n'évoquent plus les séquelles dont pourrait souffrir Navalny après son empoisonnement. De son côté, Emmanuel Macron a haussé le ton face à la Russie de Vladimir Poutine. Le président français réclame à Moscou toute la lumière sur les circonstances de cette tentative d'assassinat. Bertrand Galichet, le chef de l'État, a décidé de s'impliquer directement dans l'affaire Navalny.
Jusqu'à présent, seul le Quai d'Orsay s'était exprimé sur cette affaire en demandant des explications à la Russie. L'entretien de ce matin entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine fait suite aux examens complémentaires effectués en France et en Suède sur le cas Navalny. Il s'agissait de vérifier les analyses effectuées par le laboratoire allemand qui avait déjà conclu à l'empoisonnement de l'opposant. Les résultats communiqués par les experts français et suédois rendus publics ce matin confirment que Alexei Navalny a bien été empoisonné au Novitchok, d'où la réaction d'Emmanuel Macron qui réclame à Vladimir Poutine une clarification de la Russie dans le cadre d'une enquête crédible et transparente. L'Allemagne, au même moment, a réitéré une demande identique avec en guise de réponse toujours le même déni du président russe qui dénonce des accusations non étayées et ne reposant sur rien. Moscou se contente de réclamer des échantillons biologiques qui ont permis de détecter le Novitchok. La réprobation internationale contre la Russie inclut désormais l'Union européenne, les États-Unis et le G7. La France, elle, assume de mettre en péril le rapprochement avec le Kremlin qu'Emmanuel Macron a tenté de mettre en place dès le début de son quinquennat.
Bertrand Galichet, merci. Ça finira par se refroidir. Une petite phrase sur le climat signée Donald Trump ce soir lors d'une visite en Californie. Le président américain était interrogé sur l'influence du réchauffement climatique sur les incendies historiques qui ravagent la côte ouest des États-Unis. Je ne pense pas que la science sache réellement ce qui se passe, a encore ajouté Donald Trump, qui tient régulièrement des propos climato-sceptiques. Pour son rival démocrate Joe Biden, ces déclarations de Trump sont inacceptables et irresponsables. Si on donne à un pyromane du climat 4 années de plus à la Maison-Blanche, comment pourrait-on s'étonner que l'Amérique s'embrase encore? Voilà ce que déclare ce soir le candidat démocrate Joe Biden depuis son état du Delaware. En France, ce mois de septembre s'annonce exceptionnel du point de vue des températures. Plusieurs records de chaleur ont été battus aujourd'hui. 37,9 degrés à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, 35,7 degrés à Saint-Gervais en Haute-Savoie au pied du massif du Mont-Blanc, 35,7 degrés également à Angers. Et demain, le temps sera toujours anormalement chaud et sec sur tout le pays. Seul changement, des nuages sur la façade ouest du Cotentin aux Pyrénées en passant par la Bretagne. Ces nuages qui pourront donner localement quelques ondées. Partout ailleurs, le soleil s'imposera. Les températures restent largement supérieures aux normales saisonnières. Le matin, il fera de 12 à 23 degrés du nord à la Méditerranée. L'après-midi, le thermomètre sera compris entre 22 et 36 degrés selon les régions. Des records pourraient être encore battus sur la moitié nord. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.